RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie, avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions sur les ondes courtes de 9,5-200 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/french.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonsoir, chers auditrices et chers auditeurs des quatre coins du monde. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Notre émission va commencer par le journal suivi de commentaires et l'histoire d'aujourd'hui.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. L'Indonésie encourage le renforcement de la coopération avec le Venezuela. Le ministre indonésien des Affaires étrangères a dit trois choses comme renforcement du processus de Bali lié à la traite et la contrebande des êtres humains. Le ministre indonésien des Affaires étrangères, le ministre de l'Intérieur du Myanmar, assure la sécurité des Rohingyas dans l'état de Rakhine. Le secrétaire général de l'ONU a transmis ses condoléances à la suite du séisme à Lombok. L'évacuation des touristes de Trois-Guili se déroule sans problème. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. Le directeur général des Affaires américaine et européenne du ministère des Affaires étrangères, M. Muhammad Ansor, a déclaré lundi à Jakarta que le gouvernement indonésien s'est engagé à continuer de renforcer la coopération bilatérale avec le Venezuela lors de la célébration de la fête nationale de la République du Venezuela à Jakarta lundi. Muhammad Ansor a déclaré que les deux pays devraient continuer à faire des efforts pour que le renforcement de la coopération bilatérale puisse être atteint. La coopération entre les deux pays est une relation mutuellement bénéfique. Il pense que le Venezuela a le même engagement avec l'Indonésie à travailler ensemble pour améliorer les relations bilatérales.
Furthermore, the bilateral relations between the two countries, Indonesia reiterates its commitment to enhancing.
En ce qui concerne les relations bilatérales entre les deux pays, l'Indonésie a réaffirmé son engagement à renforcer la coopération bilatérale dans divers domaines et les deux pays doivent s'efforcer pour réaliser. Je crois que cet engagement est réciproque. L'Indonésie s'est également fermement engagée, comme Venezuela, à élargir et approfondir la coopération dans tous les domaines qui devient un intérêt commun. L'Indonésie est prête à coopérer avec le Venezuela pour renforcer les relations bilatérales qui sont essentiellement mutuellement bénéfiques. Le directeur général des Affaires américaines et européennes du ministère des Affaires étrangères, M. Muhammad Ansor, a également exprimé l'inquiétude du gouvernement indonésien concernant les incidents d'attaque de drones au Venezuela. Il a également exprimé l'espoir du gouvernement indonésien que la paix et la stabilité pourraient être maintenues dans ce pays. Le processus de Bali, la 7e conférence ministérielle, est commencé officiellement mardi matin à Nusa Dua, Bali. La conférence est assistée par 26 ministres et au niveau des ministres de 45 pays membres et 3 organisations internationales. Comme il est connu, le processus de Bali, qui est en 2018, est entré dans sa mise en œuvre de 15 ans. est un forum initié par l'Indonésie et l'Australie pour le traitement de la contrebande et la traite des personnes dans la région. Agissant en tant que co-président du processus de Bali de la 7e conférence ministérielle, la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Mme Retno Marsudi, a dit qu'il y avait trois choses à faire pour renforcer l'engagement de tous les membres à maximiser le rôle commun, la lutte contre la contrebande et la traite des êtres humains, comme renforcer la coopération avec la communauté et le secteur des affaires. Il a expliqué, lié à la participation du secteur privé et comme partie de la réalisation de la prospérité qui a été considérée comme la clé de prévenir la contrebande et la traite des personnes. Premièrement, nous devons continuer à renforcer les capacités du processus de Bali, notamment en ce qui concerne les situations de crise. Nous devons approuver un engagement plus fort entre le processus de Bali et d'autres processus consultatifs régionaux et multilatéraux axés sur la migration. Le troisième processus de Bali est actuellement en train d'élargir les partenariats. La coprésidente de la 7e conférence ministérielle Processus de Bali, en tant qu'également la ministre des Affaires étrangères de l'Australie, Julie Bishop, a déclaré que la pratique de l'esclavage dans les temps modernes, qui se déroule encore de nos jours, est une forme de crime qui saisit l'honneur et les droits fondamentaux qui nécessitaient la coopération de tous les pays. On estime que 40 millions de personnes sont victimes d'esclavage dans le monde, dont deux tiers proviennent de la région Asie-Pacifique. Ce type de crime saisit leur honneur et leurs droits fondamentaux, et ces problèmes ne peuvent être traités seulement par un seul pays. Bali Process a été créé en 2002 par l'Indonésie et l'Australie en tant que fondateur et co-président avec 48 membres, à savoir 4 pays et entités, 3 organisations internationales et 28 observateurs. Outre d'inclure comme processus de consultation régionale le plus ancien et le seul au monde impliquant les pays d'origine, les pays de transit et les pays de destination. Cependant, l'objectif du processus de Bali est de devenir un forum pour diverses informations et la coopération en matière de lutte contre la traite et la contrebande des êtres humains et d'autres crimes transnationaux connexes. Le ministre des Affaires étrangères, Mme Retno Marsudi, et le ministre de l'Intérieur du Myanmar, le lieutenant général Kiaw Swer, ont tenu la réunion bilatérale en marge de la réunion du processus de Bali lundi à Bali. Ils ont notamment discuté du rapatriement des réfugiés Rohingyas qui se trouvent actuellement à Cox's Bazar au Bangladesh. Le processus de Bali a été lancé depuis lundi 6 août 2018 à Nusa Dua, Bali, l'Indonésie, pour les autres fonctionnaires. À cette occasion, il y a eu également la réunion bilatérale entre la ministre Retno Marsudi avec les ministres et les représentants d'organisations internationales, y compris avec le ministre de l'Intérieur de Myanmar, le lieutenant général Kiaw Swer. Mme Retno Marsudi a déclaré que le lieutenant général Kiaw Swer donnait des garanties de sécurité à ceux qui vivent ou voulaient retourner dans l'état de Rakhine. Elle apprécie l'engagement du gouvernement de Myanmar et continue d'encourager que cela est bien réalisé. Selon la ministre, la garantie de sécurité est le plus se plaint des réfugiés de Rohingyas qui sont maintenant atteints plus de 500 000 personnes dans le camp de réfugiés de Cox's Bazar, le Bangladesh. Selon la ministre Retno Marsudi, il faut encourager et soutenir les communications entre le gouvernement du Myanmar et du Bangladesh à travers la confiance des deux pays, notamment pour résoudre le problème de rapatriement. Mme Retno Marsudi a souligné que dans la résolution des problèmes de réfugiés Rohingyas, il est important d'impliquer l'ASEAN qui fait partie des recommandations du Kofi Annan. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie, diffusé depuis Jakarta. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a exprimé sa tristesse face aux nombreuses victimes, aux blessures et à l'ampleur des dégâts causés par le tremblement de terre sur l'île de Lombok, dans l'ouest de Nusa Tenggara. Dans un communiqué de presse lundi, par le porte-parole adjoint des Nations Unies, Farhan Haq, Guterres a exprimé ses condoléances aux familles des victimes, au peuple et au gouvernement indonésien et a prié les victimes blessées de se rétablir rapidement. Il a également déclaré que l'ONU était prête à soutenir les efforts de l'aide et de secours en cours si nécessaire. Le tremblement de terre d'une magnitude de 7,0 sur l'échelle de Richter dimanche a secoué l'épicentre à environ 18 km au nord-ouest de la région de l'est de Lombok et 15 km sous terre. Le séisme a tué plus de 90 personnes et plus de 200 personnes blessées. L'Agence nationale de la gestion des catastrophes, ou BNPB, a déclaré que l'évacuation des touristes de Gili Trawangan, Gili Meno et Gili Air après le séisme de Lombok dans l'ouest de Nusa Tenggara s'est bien déroulé. Au total, 4636 touristes étrangers et nationaux ainsi que des résidents ont été évacués vers le port de Bangsal, de Benoa et de Lembar lundi, heure occidentale. Sutopo Purwonugroho, directeur du Centre national des données d'information et des relations publiques au BNPB, a déclaré que l'évacuation se poursuivait toujours avec 11 navires. L'évacuation vers le port de Benoa, Bali, utilise 3 navires, tandis que l'évacuation vers le port de Lembar, à l'ouest de Lombok, utilise un seul navire, et le port de Bangsal, au nord de Lombok, 7 navires. Au total, 3673 personnes ont été évacuées au port de Bangsal, 193 au port de Lembar et 770 personnes au port de Benoa. Le tremblement de terre à l'est de Lombok avec une force de 7,0 sur l'échelle de Richter s'est produit dimanche. Auparavant, le séisme avait également eu lieu dans la région avec une force de 6,4 sur l'échelle de Richter dimanche 29 juillet, 5h47 heure occidentale. Les répliques continuent à se produire dans cette région. Il a donc conseillé aux habitants de se méfier des bâtiments effondrés. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Les commentaires, le point de vue de RRI World Service, la Voix de l'Indonésie sur des questions actuelles à l'intérieur et à l'étranger.
Bonsoir à tous, merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le commentaire intitulé « Les États-Unis vont-ils modifier leur politique pour sanctionner l'Iran ?» Le président des États-Unis a de nouveau pris une décision sans prêter attention au point de vue de ses alliés. Donald Trump a confirmé que les États-Unis continuent d'imposer des sanctions à l'Iran. Les États-Unis rompront leurs relations commerciales au gouvernement qui continue à faire du commerce avec l'Iran. Dans sa déclaration mardi 7 août 2018 à Washington, Donald Trump a souligné que diverses sanctions seraient imposées à Téhéran, entre autres des exportations de pétrole iranien. L'imposition de diverses sanctions pour l'Iran à la suite du retrait des États-Unis du plan d'action global, qui est également connu sous le nom Accord nucléaire iranien, qui était au début 2018. L'accord a commencé à être discuté pendant le règne de Barack Obama. Basé sur l'accord, l'Iran a pris des mesures pour limiter ses restrictions nucléaires. Néanmoins, Donald Trump estime que la politique de Washington de l'ère Obama avait profité unilatéralement à l'Iran. Sur la déclaration de Donald Trump qui a souligné l'imposition de sanctions à son pays, Le président iranien Hassan Rouhani a qualifié cette guerre comme la guerre psychologique. Le président iranien a déclaré que la décision de Donald Trump visait à répandre les divisions parmi le peuple iranien. Est-ce que les alliés des États-Unis ne sont-ils pas conscients de la décision de Donald Trump de donner de lourdes sanctions à l'Iran? De nombreux médias internationaux ont rapporté que les alliés de Washington étaient en désaccord avec la décision. L'Union européenne, comme par exemple, continuera à mettre en œuvre l'accord initial lancé par le président Barack Obama. Selon l'Union européenne, son opposition à la décision de Washington visait à protéger les entreprises du pays qui entretiennent des relations commerciales avec Téhéran. La question, qui c'était sans renoncer à l'accord nucléaire avec l'Iran, ou finalement les alliés des États-Unis vont boycotter l'Iran? Le temps qui montrera. Néanmoins, il est intéressant de noter la déclaration de Donald Trump qui était dit en même temps avec la décision d'imposer des sanctions plus strictes à l'Iran, que Donald Trump reste toujours ouvert pour parvenir à un accord plus complet avec l'Iran. Chers amis, c'était le commentaire de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Les faits historiques que nous présentons à travers aujourd'hui dans l'histoire.
Bonsoir, chers auditeurs. Voici l'histoire d'aujourd'hui qui s'agit d'événements importants. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement l'URSS déclare la guerre au Japon. Durant la conférence de Yalta, Joseph Staline promet aux Alliés l'entrée en guerre de l'URSS contre le Japon. Le 8 août 1945, la Russie déclare la guerre à l'Empire. L'armée russe, dirigée par le maréchal Alexander Mikhailovich Vassilievski, ouvre des fronts en Mandchourie, en Mongolie intérieure, ainsi que dans la partie sud de Sakhaline. Elle occupe également les îles Kuril. En quelques jours, les forces russes, appuyées par les soldats de la République populaire mongole, progressent de 400 km. L'autre information est l'ASEAN a été établie. Le 8 août 1967, l'ASEAN est établie par l'Indonésie, la Malaisie, les Philippines, Singapour et la Thaïlande. L'ASEAN est une organisation géopolitique et économique des pays en Asie du Sud-Est, établie à Bangkok le 8 août 1967 à la base de la déclaration Bangkok par l'Indonésie, la Malaisie, les Philippines, Singapour et la Thaïlande. L'objectif de cette organisation est pour améliorer la croissance économique, le progrès social et le développement culturel des pays membres, créer la paix et la stabilité en région et intensifier l'opportunité pour discuter pacifiquement la différence parmi les pays membres. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement. L'Indonésie et la Chine ont signé un protocole d'accord sur la normalisation des relations diplomatiques. Les relations entre l'Indonésie et la Chine ont connu des hauts et des bas et la dynamique sociopolitique. L'histoire a noté qu'à l'invitation du président indonésien Sukarno, le premier ministre chinois Zhou Enlai a assisté à la conférence afro-asiatique en 1955, qui a né les 10 principes de Bandung, les principes qui ont encouragé la lutte des peuples coloniaux pour l'indépendance. Les relations entre les deux pays ont atteint le point le plus bas, marqué par la congélation des relations diplomatiques en 1967. La relation a atteint en tournant avec le début de la normalisation des relations le 8 août 1990 à travers de la signature d'un protocole d'accord sur la normalisation des relations diplomatiques par le ministre indonésien des Affaires étrangères Ali Alatas et le ministre chinois des Affaires étrangères Qian Qichen à Jakarta. Avec la normalisation, l'Indonésie et la Chine sont entrées dans une nouvelle étape dans la coopération bilatérale, marquée entre autres par l'échange de visites entre les responsables gouvernementaux et les peuples des deux pays. Serviteurs, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Indonesiaku, mon Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Serge Tap, c'est le temps maintenant pour nous de vous présenter mon Indonésie et pour le titre, le gouvernement encourage les femmes plus actives pour une économie plus inclusive. Le préjugé selon lequel les femmes n'ont pas les capacités dans les domaines de l'éducation et sociopolitique reste exister à l'ère du développement fondé sur l'économie numérique. Donc, la question de l'égalité des sexes est très importante car de nombreuses femmes peuvent actuellement effectuer des tâches et des travail formels comme les hommes. Cela a été déclaré par la ministre indonésienne des Finances, Sri Mulyani Indrawati, lors d'un séminaire intitulé « La participation des femmes pour l'inclusion économique » à Surabaya dans l'Est de Java récemment. Selon Sri Mulyani, les alignements pour les femmes peuvent accroître la valeur ajoutée de la performance économique. À cette occasion, Sri Mulyani a expliqué les efforts du gouvernement pour encourager le niveau d'égalité en fournissant une assistance sociale aux familles pauvres. L'assistance sociale comprend le programme de la famille prospère qui peut garantir aux filles de familles défavorisées une éducation décente. Pendant ce temps, la pauvreté est la raison pour laquelle les femmes des familles défavorisées ne vont pas à l'école alors que les hommes sont plus prioritaires. D'autres conférencières et le personnel expert du ministère de la Planification du Développement National entendent également le chef de l'Agence nationale de planification du développement pour les synergies économiques et financières, Amalia Adiningar Widyasanti. Elle a également déclaré que l'éducation avait un rôle important à encourager le renforcement du rôle des femmes dans l'ère de l'économie numérique. Par ailleurs, le directeur du département de la politique des systèmes de paiement de la Banque d'Indonésie, Erwin Haryono, a également estimé que la technologie numérique pourrait contribuer à accroître la participation des femmes à l'économie mondiale. L'ère du commerce électronique ou e-commerce peut être le début de l'introduction des avantages de l'inclusion financière et de l'utilisation des médias sociaux aux femmes au foyer. Dans le séminaire, on a également révélé le rapport de l'Institut de recherche de McKinsey Global Institute que l'accélération de l'égalité des femmes avec les hommes en Indonésie pourrait augmenter le produit intérieur brut annuel de 135 milliards de dollars américains en 2025. Le président-directeur de PT McKinsey Indonesia, Filia Wibowo, a affirmé que cette projection était environ 9% au-dessous des conditions normales. Ces projections reposent sur les meilleures performances de l'Indonésie des autres pays moyens d'Asie-Pacifique liées à l'égalité des femmes. La recherche du McKinsey Global Institute indique également que l'utilisation de la technologie numérique peut encourager une productivité accrue des entrepreneurs indonésiens. À l'heure actuelle, les petites et moyennes entreprises appartenant à des femmes ont contribué au produit intérieur brut de 9,1% avec les affaires des femmes ayant attiré 35% des revenus de la transaction en ligne. Néanmoins, il y a encore beaucoup de choses à faire pour améliorer l'accès des femmes à l'Internet et tirer parti de l'alphabétisation numérique. Secrétaire, c'était mon Indonésie de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Matamu kuatkan hatimu, berikan energi di dalam semangatmu.
Tegaklah berdiri, terbanglah kau tinggi. Inilah saatnya namamu bergema. Maknai kekalahan sebagai kemenangan yang tertunda. Jangan pernah berputus asa, jadi yang terbaik.
Les émissions de La Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voines.id/frenca.
Chers auditeurs, un grand merci de votre fidélité d'écouter La Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. C'est le temps maintenant pour nous de vous présenter le magazine culturel et apprendre l'indonésien.
connaître la richesse de l'art, de la culture et du tourisme indonésien dans le programme Le Magazine Culturel, Pesona Indonesia.
Bonsoir, chers auditeurs, bienvenue dans le magazine culturel, un programme quotidien sur le tourisme, les arts, les alimentations et la culture de différentes régions d'Indonésie. Dans l'édition d'aujourd'hui, nous vous présentons une destination touristique dans le sud du Sulawesi. Restez à l'écoute. Dans la province de Sulawesi du Sud, il existe une résidence appelée Maros. La résidence est une zone touristique avec des variétés complètes telles que les collines de Teletubbies et la pinette de Bengo Bengo. Non loin de la rivière Puté, il y a des paysages incroyables. Il s'appelle la forêt de Ramang Ramang. En 2001, l'UNESCO a enrôlé le classe Maros comme conservation naturelle qui a répondu à 9 conditions telles que la biodiversité unique et les restes d'anciens humains existants sur le mur de la grotte. Cet endroit est le deuxième plus grand classe au monde après la zone karstique du Yunnan dans le sud de la Chine. Chers auditeurs, le mot de Ramang Ramang vient de la langue du sud de Sulawesi, signifiant la noise ou le brouillard. La population locale donne le nom de Ramang Ramang car chaque matin ou lorsqu'il pleut, l'endroit est généralement couvert de noises ou de brouillard. Lorsqu'il y a des noises, il y a des grappes de piliers de pierre dans les chambres des habitants locaux qui rend le paysage exotique. L'objet touristique de Ramang Ramang est situé dans le village de Salendrang, dans le district de Bontoa, en résidence de Maros, dans la province de Sulawesi du Sud. L'emplacement du village est environ 40 km de Makassar. Pour accéder à l'objet touristique, la zone peut être atteinte par des véhicules à moteur. Si vous partez de la ville de Makassar, cela prend environ 2 heures. Si vous allez directement de l'aéroport Hasanuddin, cela ne prend que 30 minutes. Chers auditeurs, c'était notre programme Magazine Culturel pour ce soir. Merci de votre attention. À bientôt.
Mari berbahasa Indonesia. Parlons indonésien. Vous invite à parler bien et facilement indonésien.
Bonsoir tous les amis. On se retrouve dans l'émission Apprendre l'indonésien, une rubrique qui vous introduit des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre La Voix de l'Indonésie, la station de radiodiffusion à l'étranger de RRI, avec l'Agence de développement et du renouvellement du langage du ministère de l'Éducation et de la Culture de la République indonésienne. Le sujet d'aujourd'hui est membeli kemeja. Je répète, membeli kemeja. Ou en français, acheter une chemise. Allons-y. Chers amis, je vais vous donner l'exemple d'une conversation intitulée « Membeli kemeja »
ou en français acheter une chemise. Dans la boutique de batik, à la rue de Malioboro, Enda et Tony a négocié des vêtements. Enda, kemeja itu berapa harganya? Pramuniaga, 120.000 rupiah. Enda, 80.000 ya. Pramuniaga, belum bisa, 100 saja. Enda, oke, saya ambil satu. Après avoir écouté cette conversation, je vais vous introduire des vocabulaires et des phrases indonésiennes liées au sujet d'aujourd'hui. Membeli kemeja, ou en français acheter une chemise. Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot ou chaque phrase deux fois et vous pouvez les répéter après moi. Kemeja itu berapa harganya? Kemeja itu berapa harganya? Qui signifie combien ça coûte la chemise? 120.000. 120.000. Qui signifie 120.000. 80.000. 80.000. Qui signifie 80.000. 100. 100. Qui signifie 100. Oke, saya ambil satu. Oke, saya ambil satu. Qui signifie d'accord, j'achète un. Dans le dialogue, le vendeur a mentionné le prix de la chemise. C'est 120.000 rupiah. Enda a négocié le prix de la chemise en disant 80.000 ya. Je répète, 80.000 ya. En Indonésie, quand vous achetez quelque chose et négociez le prix, vous pouvez mentionner le prix que vous voulez. En forme de question, par exemple, 100.000 ya. 100.000 ya. Ou, bagaimana kalau 50.000? Je répète, bagaimana kalau 50.000? En outre, pour négocier le prix, vous pouvez dire boleh kurang. Par exemple, Enda, berapa harga sepatu ini? Berapa harga sepatu ini? En français, quel est le prix de ces chaussures? Pramuniaga, 200.000. 200.000. En français, 200.000 rupiah. Enda, boleh kurang? Boleh kurang? En français, peut-il être inférieur? Pramuniaga, maaf, tidak bisa. Harga pas. Maaf, tidak bisa. Harga pas. En français, non, c'est le prix fixé. Harga pas, ou en français, le prix fixé, c'est-à-dire, le prix n'est pas négociable. Avant de terminer apprendre l'indonésien aujourd'hui, pour comprendre plus, écoutons encore une fois la conversation.
Kemeja itu berapa harganya, Mas?
120.000.
80.000 ya?
Oh, belum bisa. Satu saja.
Oke, saya ambil satu ya.
Après avoir écouté la conversation, dont le titre est Membeli kemeja, ou en français acheter une chemise, je vais vous donner un exercice en utilisant deux mots que nous avons déjà appris. L'exercice est décrivez votre travail en mentionnant votre nom, votre profession, votre bureau, vos horaires de travail, les jours, les heures et la pause de travail. Par exemple, nama saya Andi, saya seorang wartawan bekerja di surat kabar Sinar Pagi. Waktu bekerja saya hari Senin sampai hari Jumat dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore dan jam istirahat jam 12 sampai jam 1 siang. Envoyez votre enregistrement vocal en indonésien à notre adresse email à voi@voinews.id. Il y aura un prix intéressant pour un euro gagnant. Et le gagnant sera annoncé en novembre 2018. Alors les amis, voilà l'édition de la rubrique « D'apprendre l'indonésien » d'aujourd'hui. J'espère que cette édition pourrait être utile pour ceux d'entre vous qui veulent savoir plus indonésien. On se retrouvera demain avec d'autres sujets intéressants. Merci beaucoup pour votre attention et à demain.
Chers auditeurs, nous finissons notre programme avec le magazine musical.
Pelangi Nada, le magazine musical, vous présente les musiques et les chansons indonésiennes.
Bonsoir tout le monde, on se retrouve encore dans notre chère rubrique de la voix de l'Indonésie, le magazine musical. Aujourd'hui, on va vous introduire les chansons d'un groupe de musique indonésien s'appelle Soul Vibe. Soul Vibe est un groupe indonésien qui a été officiellement créé le 28 mars 2005. Le nom de Soul Vibe est l'abréviation de Sound of Universal Love, Various Instrument Behavior. Il y a trois membres de ce groupe. Ils sont Bayu Adiputra Imran, comme vocaliste, Ramadan Handianto Jiwatama, comme bassiste, et Mohamad César Rizal, comme batteur. Bon, écoutons maintenant la chanson de Soul Vibe, dont le titre est Sahabat Sejati, ou en français, le véritable ami.
Sahabat sejatiku, hilangkah dari ingatanmu di hari kita saling berbagi. Dengan kotak sejuta mimpi, aku datang menghampirimu. Ku perlihatkan semua hartaku. Kita selalu berpendapat kita ini yang terhebat. Sombongan di masa muda yang indah. Aku raja, kau pun raja. Aku hitam, kau pun hitam. Arti teman lebih dari sekedar materi. Pegang pundakku, jangan pernah lepaskan. Bila ku mulai lelah, lelah dan tak bersinar, yeah. Sayapku jangan pernah lepaskan. Bila ku ingin terbang, terbang meninggalkanmu, yeah. Oh. Ku selalu menanyakanmu, kau pun selalu menyanjungku. Aku dan kamu darah apa? Sama kita duakan segalanya. Merdeka kita, kita merdeka. Pegang pundakku, jangan pernah lepaskan. Bila ku mulai lemah, lelah dan tak bersinar. Remas sayapku, jangan pernah lepaskan, yeah. Bila ku ingin terbang, terbang meninggalkanmu, yeah, yeah, yeah.
la chanson intitulée Sahabat Sejati, chantée par Soul Vibe. Cette chanson a été lancée le 4 mai 2018 et a déjà été popularisée par le groupe Sheila on 7. Par Soul Vibes, cette chanson a été chantée dans la nuance et pop jazz. Les auditeurs, la chanson suivante que vous allez écouter s'intitule Gravitasi, ou en français La Gravité, qui parle de quelqu'un qui tombe amoureux.
Lama, lama, ku jatuh cinta padamu. Sekian lama ku mengenalnya, begitu pun juga dia sama. Tak pernah ada satu kata, kau dan aku berbeda. Yeah. Sekian waktu pun berirama, ada rasa yang tak aku duga. Tiada ku sangka tak kau curi hatiku, mau untuk bilang suka. Wow, wow.
Les auditeurs, vous venez d'écouter l'une des chansons de Soul Vibes intitulée Gravitasi, ou en français La Gravité. Depuis qu'elle était présente dans le monde de la musique, Soul Vibes performe souvent sur des chaînes de jazz célèbres. Par exemple, Jazz Goes to Campus FAUI en 2006 et Java Jazz en 2007. Leurs actions sur scène ont confirmé que Soul Vibes n'était pas simplement un groupe d'enregistrement. Alors les auditeurs, c'est toute l'édition du magazine musical d'aujourd'hui sur Soul Vibes. Pour la terminer, je vous donne deux chansons de Soul Vibes intitulées Gerangan Cinta, ou en français Amour, et At Least Today, ou en français Au moins aujourd'hui. Bonne écoute et au revoir.
Mmh, yeah, yeah.
Les émissions de La Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voinews.id/french.
Of you and I, one thing I know and realize, nothing is impossible. Hope the best for you and I, cherish every single time. I don't even know
about tomorrow. So in love, you and I, we are lucky to be one. We are destined to be in love, at least today.
C'était notre programme pour ce soir. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, la voix de l'Indonésie.
Suivez nos émissions tous les jours sur les ondes courtes de 9525 kHz. Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, la Voix de l'Indonésie, RRI, au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4-5, Jakarta, 10110 ou PO Box 1157, Jakarta. Vous pouvez également rejoindre sur Facebook The Voice of Indonesia et Twitter @voindonesia ou bien Instagram voice-of-indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.